Bonjour à tous, c'est l'heure de Force 7, le magazine d'information régionale de Fréquence Mistral, proposé et présenté par François Malabave. Bonjour François.
Bonjour Olivier, bonjour à tous.
Au sommaire de ce magazine, à Briançon, MSF apporte son soutien et une tente chauffée pour accueillir des migrants de passage alors que la frontière se militarise. Le reportage de Susanna Wright pour Force 7. Fort-Calquier accueille 4 conférences sur la laïcité. Premier invité, Jean-Louis Bianco, interviendra le 24 novembre. Depuis plus de 30 ans, la Nef défend une finance saine et sans spéculation. À Marseille, Colline Jutet s'est penchée sur cette banque éthique. C'est bientôt le Téléthon et dans le 04, le village de l'Escale va s'animer une semaine avant la date officielle. À Digne, une ludothèque a ouvert ses portes près du centre culturel. Le reportage d'Odile Frison dans un instant. Une manifestation solidaire, parce que un toit, c'est la loi.
C'était le mot d'ordre d'une manifestation qui a regroupé samedi 13 novembre environ 300 personnes à Briançon. Dans leur rang, des membres des associations Refuge Solidaire, Tous Migrants, Médecins du Monde, le CCFD, le Collectif des Solidaires et Médecins Sans Frontières. Cette dernière ONG fournissant une tente chauffée de 100 mètres carrés pour pallier le manque de places d'hébergement d'urgence, besoin criant au point de passage en montagne entre Italie et France. Un équipement habituellement réservé à des zones de guerre ou de catastrophes naturelles, pas de conflits armés ou de séismes à Briançon, mais une réponse militarisée à la frontière et un rejet des pouvoirs publics quant aux migrants, mairies et préfectures, ce qui fait réagir la société civile et la paroisse. Tous veulent rendre visible la situation dramatique des exilés qui sont simplement de passage dans les Hautes-Alpes et affrontent des températures aussi négatives que les réponses administratives locales. La présence des militaires à la frontière poussant les migrants, parfois avec femmes et enfants, à fréquenter les chemins toujours plus dangereux. L'hiver fait craindre des blessures et décès dramatiques. Au micro de Susanna Wright, des témoignages et interviews croisés, le coprésident de Tous Migrants, Michel Rousseau, Jean Gaborio, bénévole du Refuge Solidaire, ainsi que Julien de Lausanne pour Médecins Sans Frontières, avec également des extraits de discours.
Donc le programme va être sympa, mais pourtant, nous ne devrions pas être là. Dans notre société, à notre époque, sur notre territoire, l'État, les associations, les collectifs, les élus, les citoyens et d'autres encore devraient remplir leurs rôles et fonctions, les uns avec les autres, mettant en place des solutions pérennes pour que personne ne dorme dehors, que personne ne meure en montagne, qu'aucun enfant n'ait froid, n'ait faim.
Michel Rousseau, co-président de Tous Migrants. Aujourd'hui, vous organisez avec d'autres associations une manifestation à Briançon. Pourquoi ?
Eh bien, pour manifester notre mécontentement face à l'entêtement de la préfecture, qui au lieu de respecter le droit, et entre autres en assurant un toit à toutes les personnes exilées qui se retrouvent aujourd'hui dans la rue à Briançon, n'a pour seule réponse que de renforcer toujours plus les forces militaires à la frontière pour les refouler, alors que la plupart d'entre eux sont des exilés, des demandeurs d'asile, et de toute façon des humains en détresse. La seule attitude digne, c'est d'accueillir les gens et de leur permettre que leurs droits soient respectés. C'est ce que la population de Briançon, du Briançonnais, fait depuis 5 ans face à, justement, à l'abandon de l'État et à la maltraitance de l'État envers les populations exilées. Cette maltraitance qu'on voit pas seulement à Briançon, mais aussi à Paris, à Calais, et ailleurs en Europe, malheureusement. Ça, c'est une question très importante, donc il faut bien que tout le monde en saisisse l'enjeu. Il s'agit d'une manifestation, comme d'habitude, s'agissant des manifestations appelées par tous migrants pacifistes, qui s'adresse à toute la population dans toutes ses composantes. Pour qu'on puisse échanger sur ces questions, que les gens puissent témoigner de leur soutien aux exilés et justement à tous les bénévoles, toutes les associations qui leur viennent en aide, de sorte aussi de faire pression sur les autorités pour qu'elles, encore une fois, qu'elles assument leurs responsabilités.
Et quelle est la situation actuelle pour les exilés à Briançon ?
Eh bien, depuis, donc, le refuge solidaire a décidé de fermer le nouveau refuge, à peine était-il ouvert, parce qu'il y avait plus de 200 personnes, alors que c'est un refuge qui est capable d'accueillir entre 60 et 80 personnes dans de bonnes conditions. Donc la sécurité des personnes n'était plus assurée, pas plus celle des exilés que des bénévoles.
On avait prévu 60 places d'exilés pour que ça se passe dans des bonnes conditions, que chacun soit logé dans une chambre. Et très vite, on a dû loger des gens dans la salle à manger, et puis après dans les couloirs, et ça devenait intenable et trop dangereux. Et comme on n'avait toujours pas de réponse de l'État par rapport à une solution annexe, on était obligé de suspendre l'accueil aux terrasses et le déplacer à la paroisse. Mais on souhaite réouvrir le plus rapidement possible, sous la condition, évidemment, toujours que cette jauge de 60 personnes ne soit plus dépassée aux terrasses.
Ça faisait déjà très longtemps, hein, depuis cet hiver, qu'on alertait à nouveau les autorités sur le fait qu'on était en incapacité d'accueillir dignement les gens parce qu'ils étaient en nombre trop important, non pas en valeur absolue, mais par rapport à nos propres capacités d'accueil, qu'il était vital que l'État prenne enfin ses responsabilités. Ça, heureusement, la paroisse, avec le soutien de l'évêque, a pu mettre l'église, puis la salle Sainte-Thérèse, puis le terrain de la paroisse à la disposition des associations pour qu'un minimum d'accueil soit assuré, un minimum d'abri. Et voilà où on en est aujourd'hui.
Devant la situation d'urgence provoquée par l'augmentation de l'afflux des personnes migrantes à Briançon, la paroisse de Briançon, en accord avec l'évêque de Gap, a mis à disposition de l'association Refuge Solidaire des locaux situés sur le site paroissial de Sainte-Catherine. Une réflexion est en cours pour l'établissement d'une convention d'usage entre Refuge Solidaire et la paroisse. Mise à disposition du terrain jusqu'à fin avril 2022 au maximum.
On a aussi depuis aujourd'hui un renfort extrêmement important puisque MSF, qui est donc une des plus grosses ONG françaises et même à l'échelle internationale, a donc décidé de nous donner une tente de 100 mètres carrés. C'est une première en France.
Pour répondre à une urgence humanitaire, on a des exilés qui sont à Briançon. Une grosse partie viennent d'Afghanistan. Ce sont des familles, ce sont des gens qui sont vulnérables, qui ont traversé la montagne et qui arrivent à Briançon avec des engelures, en hypothermie, dans des situations qui exigent une prise en charge médicale. Les solidaires ont sollicité MSF parce qu'ils se trouvaient dépassés par l'ampleur de la situation et par la non-réponse de la préfecture. C'est aujourd'hui une réponse humanitaire, de la protection immédiate qui est nécessaire. Il s'agit d'éviter un drame. Alors cette tente, elle a pour particularité, déjà c'est une tente qui est quand même assez grande, elle fait environ 100 mètres carrés, elle a la capacité d'héberger 50 personnes, elle est chauffée et elle résiste à des températures négatives. Contrairement au barnum qui était utilisé par les solidaires avant, les exilés auront des conditions qui seront plus dignes. Nous appelons la préfecture et l'État à installer ici un accueil provisoire d'urgence qui soit digne et qui soit adapté aux conditions des personnes migrantes qui arrivent.
Ce donc est... Et voilà, c'est, encore une fois, c'est pas pour rien. Cette première, elle doit alerter.
Médecins du Monde est présent sur Briançon, en appui et en collaboration avec les acteurs locaux comme le Refuge et Tous Migrants. Par nos actions de soins, à permanence médicale au Refuge et l'unité de mise à l'abri pendant les maraudes, nous pouvons constater tous les effets néfastes de la traversée des frontières et des risques encourus dans la montagne. Des gelures, des hypothermies, de l'épuisement, des douleurs multiples, des plaies infectées. Bref, un état de santé psychique
et physiques dégradées. Actuellement, la non-réponse de l'État aux revendications des associations du Briançonnais nous amène à pratiquer des soins dans des conditions dégradées et indignes. L'accès au dépistage Covid, indispensable pour continuer leur parcours, n'est plus possible depuis 3 semaines. La Croix-Rouge française, mandatée par l'ARS, n'a plus l'autorisation de la préfecture pour venir. Les politiques de santé publique sont aux ordres du ministère de l'Intérieur et c'est un non-sens. Nos médecins du monde et les bénévoles assurent tant bien que mal l'organisation de ces tests avec des soignants et des pharmacies locales. Une fois de plus, tous les moyens sont utilisés pour entraver le parcours des personnes exilées et l'accès aux soins et à la prévention ne sont plus respectés. Un grand merci aux bénévoles citoyens pour leur incroyable énergie et merci à MSF.
Malgré les renforts de la police aux frontières, les exilés continuent à arriver en nombre certes un peu moins important, mais en prenant des risques de plus en plus grands. Le 8 novembre, 8 personnes en hypothermie ont été récupérées sous le Janus et héliportées par le secours en montagne. Et ce n'est qu'un exemple.
Pourquoi avez-vous décidé de venir soutenir cet rassemblement aujourd'hui ?
D'une part, parce que je ne suis pas d'accord avec la politique de l'Europe qui est menée concernant la protection de ses frontières et de l'accueil des réfugiés. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le traitement qu'on inflige à ces réfugiés qui cherchent une terre d'asile pour refaire leur vie, parce qu'ils ne sont pas ici par plaisir, on l'imagine bien. Et troisièmement, vu le contexte actuel à Briançon et vu ce qui s'y passe, avec la création d'un nouveau lieu qui était plus grand, mais dont l'État se décharge sur les associations, je trouve la situation anormale dans notre République dite terre d'asile.
Calquier, des conférences autour de la laïcité.
L'Université populaire Graines de Savoir est un espace de formation, de discussion et de débat. Elle entend promouvoir la liberté de penser, l'égalité des droits et des chances, et aussi la solidarité et la laïcité dans un esprit de mixité sociale et de coopération. C'est dans ce cadre qu'est proposé un cycle autour de la laïcité avec 4 conférences. La première verra l'intervention de Jean-Louis Bianco, ancien ministre et député qui présida également le Conseil général des Alpes de Haute-Provence. Monsieur Bianco fut aussi pendant près de 8 années et jusqu'en avril dernier président de l'Observatoire de la laïcité. Mercredi 24 novembre, il évoquera la question de la laïcité aujourd'hui. La présidente de Graines de Savoir revient sur la notion d'université populaire et présente ce cycle de conférences au micro de Mathieu Marc. Odile Chenevez.
Une université populaire, c'est d'abord une association, loi de 1901, qui se donne des missions de rentrer dans le cadre de l'éducation populaire. On a beau s'appeler université, on n'a pas de débouchés de type diplôme ou autre. Nous, ce qu'on vise, c'est la formation du citoyen dans tous les domaines de savoir et de la connaissance, avec de la mise en débat de ces savoirs. C'est comme ça qu'on envisage aussi la position de citoyen.
Avec cette condition qui est, c'est ouvert à absolument tout le monde.
Oui, alors c'est ouvert à tout le monde, bien sûr, puisque c'est l'éducation populaire. Il se trouve qu'il y a quand même une majorité de retraités qui assistent et qui participent à nos activités, qui sont nombreuses. Mais c'est absolument pas réservé à cette population-là. Et on voit beaucoup de gens aussi, d'autres qui viennent peut-être moins souvent, mais qui s'intéressent de près à ce qu'on fait.
Et vous avez une activité extrêmement diversifiée, vous l'avez précisé tout à l'heure. Ça va des conférences en passant par des ateliers jusqu'à des cours.
Oui, alors il y a 4 types d'activités, et même j'en rajouterai une 5e, qui sont des cours de philo, d'histoire de l'art, de philosophie politique et d'économie, par exemple, qui ont cette particularité d'avoir un suivi. C'est-à-dire que c'est entre 5 et 10 séances dans l'année pour un cours. Il y a des conférences qui sont ponctuelles sur des thématiques précises, parfois liées avec l'actualité, avec une personnalité par exemple. Il y a des ateliers où là, c'est pas quelqu'un qui parle, mais c'est tout le monde qui travaille à réfléchir, par exemple sur la formation de l'esprit critique dont je m'occupe. Et là, on travaille ensemble un thème sur lequel il faudrait arriver à se faire une opinion, par exemple chacun. Et il y a également des cafés. Alors ça, on y tient beaucoup. C'est café philo, café citoyen, café littéraire, où on se réunit autour d'une thématique et on réfléchit ensemble. Là, ce n'est pas vertical, c'est complètement horizontal. Et ces cafés, on y tient beaucoup. Il y en a 3 fois par mois, un café philo, un café littéraire, un café citoyen par mois. Et au total, on a à peu près entre 2 et 4, voire 5 activités dans une semaine sur les périodes scolaires. Un dernier type d'activité qu'on fait aussi et qu'on a mis en place cette année, on travaille avec les élèves du collège pour faire de l'accompagnement aux devoirs. On va au collège, un certain nombre de volontaires parmi nous, on va au collège pour aider aux devoirs, pour les élèves qui en ont besoin.
Et dans le cadre de l'université populaire Graines de Savoir, vous proposez un cycle autour de la laïcité avec 4 dates, le mercredi 24 novembre, le 8 décembre, le 26 janvier et le 23 mars.
Tous les ans, on a un cycle où on essaye de réunir les différents courants de pensée et religion autour d'une thématique. Pendant 2 ans, on a fait la bioéthique. Et cette année, on va se pencher plus précisément sur le problème de la laïcité, qui est un problème compliqué, en profitant du fait qu'on a dans le département quelqu'un qui a été très actif sur cette question, qui est Jean-Louis Bianco, qui s'est occupé de l'Observatoire de la laïcité auprès du gouvernement pendant assez longtemps, qui a arrêté maintenant, qui a lancé d'autres groupes de travail sur cette question. Et il a accepté de venir nous faire une conférence à Fort-Calquier et il va nous expliquer un petit peu comment se pose aujourd'hui le problème de la laïcité. Donc ça, ce sera le 24 novembre à l'espace Bonnefontaine, à Fort-Calquier, la grande salle, parce qu'on pense qu'il y aura du monde qui va venir à cette conférence. Cette première conférence sera suivie d'une autre faite par une professeure d'histoire qui est Béatrice Ducret. Là, ce sera vraiment pour qu'on remette les choses à plat sur l'histoire et le contenu de la loi de 1905, pour qu'on ne dise plus pas de bêtises sur cette question-là.
La loi de séparation de l'Église et de l'État.
Exactement, la loi de 1905, loi sur la laïcité, autrement appelée. Mais comme cette loi pose aujourd'hui un certain nombre de questions, un certain nombre de problèmes, qu'elle peut être mise en cause, qu'elle est discutée, que chacun l'interprète à sa manière, on a prévu 2 séances supplémentaires qui seront des conférences-débats avec des représentants de différents courants de pensée et de religion, qui viendront nous dire, eux, comment ils voient les choses. Est-ce qu'il faut refaire la loi sur la laïcité? Ou bien, au contraire, elle est parfaitement adaptée aujourd'hui? Est-ce que tout le monde entend les choses de la même manière? Donc, c'est ça qui seront débattus dans les séances du 26 janvier et du 23 mars.
Avec, pour le 26 janvier, la problématique « Comment vivez-vous la laïcité ?» et le 23, « Faire vivre la loi de 1905 aujourd'hui ».
Voilà. Et ça aura lieu dans la salle polyvalente de Mannes.
Et à noter que les conférences sont en accès libre.
Les conférences sont en accès libre. La ville de Mannes nous demande que les personnes qui participent aient un pass sanitaire. Mais les conférences sont gratuites. On a un site internet qui est www.graines-de-savoir-tout-attaché.com.
La nef, une finance responsable.
Où va l'argent que j'épargne et d'où vient celui que j'emprunte? 2 questions importantes auxquelles la nef, banque éthique, apporte des réponses et des solutions. Elle est organisée comme une coopérative financière qui défend une finance saine et transparente, sans spéculation et en circuit court. Bancaire itinérante pour la nef sur les secteurs des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, Laetitia Dourdan précise le fonctionnement et l'organisation de cette banque au micro de Colline Juté.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette structure qu'est la nef? Comment ça fonctionne?
Alors, la nef est une coopérative financière, c'est-à-dire qu'on a des épargnants qui nous confient des fonds Ce sont des particuliers, des institutionnels, des professionnels. Et avec ces fonds, on refinance sur les territoires des projets à impact, donc des projets sociaux, environnementaux et culturels.
C'est différent d'une banque.
C'est différent d'une banque au sens où on n'a pas d'agence bancaire comme on peut connaître sur les banques traditionnelles. On fonctionne uniquement avec nous, banquiers itinérants sur les territoires, et avec nos épargnants qui peuvent représenter la NEF sur leur territoire également et qu'on appelle des sociétaires actifs. Le principe de la NEF, en fait, c'est une coopérative. Donc chaque épargnant a la possibilité d'avoir un livret ou d'acquérir des parts sociales. Ces parts sociales lui confèrent un statut de sociétaire. Et sur les 40 000 sociétaires, on en a à peu près 200 sur le territoire national qui sont actifs. C'est-à-dire qu'à leur niveau, en fait, sur leur microcosme, là où ils vivent, là où ils travaillent, ils peuvent intervenir et présenter la NEF auprès d'eux.
Et qu'est-ce que ça implique d'être sociétaire ?
C'est plus un choix. Ça implique de pouvoir parler de la NEF, de pouvoir la représenter, de pouvoir aussi nous seconder sur les territoires, nous, banquiers itinérants. On n'a pas le don d'ubiquité, donc quelquefois on a besoin en fait de nos sociétaires pour aller sur un territoire, pour voir à quoi ça ressemble quand on finance un projet professionnel.
Et alors à Marseille et dans la région, quel type de projets sont financés par la NEF ?
Alors là, sur les derniers mois, financés par la NEF sur les territoires de Marseille, on a financé aussi bien du commerce type boulangerie, donc boulangerie bio. Je pense à celle dans les Chartreux, la boulangerie Bonny, une autre sur Carnoux en Provence, par exemple, qui s'appelle Racine. On a financé l'installation de panneaux photovoltaïques sur un collectif citoyen, sur Cabriès et également sur Marseille. On va pouvoir financer des projets culturels, des projets associatifs. Voilà, un peu tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, un impact.
Et les sociétaires, ils peuvent aussi envoyer des projets qui pourraient être soutenus, participer à cette prise de décision de quel projet est retenu pour...
Alors, les sociétaires peuvent nous faire parvenir effectivement des contacts parce que eux sont aux premières loges en fait d'un projet qui pourrait se présenter également comme nous. En fait, on a deux façons de faire venir les projets à la NEF, trois façons en fait. Soit le porteur de projet est allé sur Internet, il est allé sur notre site et il nous a sollicité directement sur le site. Soit il nous a identifié sur le territoire et donc il m'a envoyé un mail ou il m'a appelé. Soit effectivement il peut avoir un lien avec un sociétaire ou connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et le sociétaire peut me donner effectivement ses coordonnées pour que je le recontacte. Dans ces cas-là, c'est plus de la mise en relation. Après, le sociétaire va pouvoir me donner son avis sur... quelquefois, c'est des territoires que nous, on connaît moins bien. Hein. Autant je maîtrise bien le territoire de Marseille, autant le fin fond des Alpes-Maritimes, c'est quelquefois un peu plus compliqué. Donc, eux vont me donner des renseignements sur le territoire, sur ce qui se passe. On va leur faire un retour. Par contre, la prise de décision, elle nous appartient.
Et l'idée, donc, c'est d'être très transparent sur ce que l'épargne...
Oui.
De chaque sociétaire servira à financer.
Oui. En fait, on publie tous les ans la liste des financements. Et donc, tous nos clients ont la possibilité d'y avoir accès sur le site Internet. Et tous nos clients ont la possibilité de nous passer un coup de téléphone en nous disant, voilà, j'ai vu que la NEF avait financé tel projet. Je voudrais en savoir un peu plus. Donc, ils sont en mesure de nous demander des comptes. Hein. Et ils ont aussi la possibilité d'aller voir le projet en lui-même, de pousser la porte en disant, voilà, moi je suis sociétaire à la NEF et j'ai vu qu'on avait financé votre projet, je viens voir à quoi ça ressemble, est-ce que tout va bien, comment ça se passe, voilà.
Il y aura un jour la décision d'ouvrir aussi, de permettre aux sociétaires d'avoir un compte courant sur la NEF.
C'est en cours. Okay. On espère. Aujourd'hui, en fait, la NEF propose pour les particuliers des livrets d'épargne, des parts sociales. Pour les professionnels, le compte courant, donc les financements, qu'ils soient courts ou moyen terme. Également les parts sociales et la possibilité de déposer de la trésorerie sur ce qu'on appelle des comptes à terme. On espère, on travaille demain pour pouvoir proposer un compte courant effectivement à n'importe quel épargnant sans avoir l'obligation de devenir sociétaire. Mais ça, c'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, la nef, c'est une grosse centaine de personnes, une petite trentaine de banquiers itinérants sur les territoires. Donc, il reste à peu près 70 personnes, ce qu'on appelle en back-office. Et ça prend du temps. Et on est une structure. On grandit, en fait, à taille humaine et tout doucement en fonction de nos possibilités et de nos disponibilités. L'idée, c'est pas de brûler les étapes.
Et où est-ce qu'on peut vous retrouver à Marseille ?
Alors à Marseille, on peut me retrouver au 28 Boulevard National, à La Ruche, donc dans le premier arrondissement. Sinon, on peut me retrouver également sur le site de la nef.fr et par mon adresse mail, l.dourdan@lanef.com.
Téléthon, l'escale à l'unisson.
Formidable élan national de solidarité, le Téléthon permet chaque année depuis 1987 de sortir les maladies rares et génétiques de l'ombre. En trois décennies, des progrès immenses ont été réalisés grâce aux actions menées par des milliers de bénévoles partout en France. Les dons servent à la recherche de plusieurs maladies telles mucoviscidose, Alzheimer, diabète, cancer ou toute autre affection génétique ou neuromusculaire. Dans le village de l'Escale, comme chaque année, c'est en avance d'une semaine sur l'opération nationale que l'équipe de l'Office municipal des fêtes lance son Téléthon, événement qui va se dérouler le samedi 27 novembre avec un programme riche et depuis peu une nouveauté de taille, le marché de Noël de l'Escale. Un rendez-vous dense et convivial pour rassembler un maximum de dons. Pour les organisateurs, c'est un moment plein d'émotions et très attendu qui arrive à l'Escale, ce que confirme Philippe Guyot, conseiller municipal et président d'honneur de l'OMF de l'Escale, au micro de Chris Alessandri.
Oui, le Téléthon, auquel nous sommes tous attachés, hein, puisque c'est un moment essentiel de la vie escalaise. Bon, rappelons quand même que l'épisode 2020 a été malheureusement supprimé à cause de Covid, mais nous reprenons la tradition, enfin l'événementiel de 2019 qui avait parfaitement fonctionné, c'est que le Téléthon, à l'Escale, prend la forme d'un marché de Noël. Alors, convivialité, fête des familles, fête des enfants, un moment de rassemblement, avec naturellement le respect des gestes barrières, hein, puisque nous y seront très attachés, mais un moment de convivialité, de rassemblement. Ça se passera le 27 novembre, de 9h à 17h, dans le centre du village de l'Escale.
Tout un contexte d'animation que vous proposez, comme chaque année, avec des divertissements, et toujours beaucoup de monde autour de vous.
Exactement. Alors, un marché, naturellement, hein, puisqu'il y aura des exposants, nous en sommes à peu près une vingtaine au moment où nous parlons, là. Je pense qu'il y en aura un peu plus. Donc, un joli petit marché de Noël, avec des produits locaux, ça, nous y sommes très attachés, des produits artisanaux. Bon, en fait, ça, c'est la tradition. Il y aura des animations. Naturellement, de sources bien informées, je me suis laissé dire qu'il y aura le Papa Noël qui sera là dans les allées. Bon, ça, il faut le dire aux enfants. Les enfants pourront croiser le Papa Noël. Il y aura des sculptures de ballons, du maquillage, des jeux de bois qui sont très, très prisés par les enfants, avec un village de Noël pour prendre des photos. Il y aura une fin de journée qui sera basée aussi sur les enfants, avec la décoration de l'arbre de Noël, avec leur propre décoration qu'ils auront fait en école. Il y aura aussi un petit passage de chant de Noël fait par les enfants des écoles de l'Escale. Toute une journée qui sera rythmée sur cette fête de Noël, fête des enfants, fête des familles. Mais en même temps, on va dire, c'est une fête de l'humain. C'est-à-dire qu'on se retrouve, qu'on essaie de se parler, de grignoter, de boire un petit coup, on essaie de faire ce qu'a défait le Covid pendant 2 ans, mais on va essayer de le reconstruire. Voilà.
Il y a forcément des tas d'actions que vous menez. Ces actions, elles sont là pour amener des fonds. Et ces fonds, vous les récoltez de quelle façon ?
Très facile. Donc, la participation des exposants est reversée intégralement pour l'AFM au Téléthon. Nous allons faire vente de vin chaud, vente de décorations, vente de bougies qui seront, puisque le Téléthon cette année, le thème, c'est la fête de la lumière. Nous finirons la journée par une illumination des bougies faites également par les enfants, avec des bougies qui seront payées. Enfin, bon, ce sera une petite petite participation de 1 euro par bougie. Et tous les bénéfices seront reversés, comme chaque année, intégralement à la FM Téléthon. À la fois, c'est un divertissement, hein, c'est une fête conviviale, comme je viens de le dire, mais en même temps, c'est une bonne action. Nous le faisons dans l'intérêt de tous. Qui sait si demain, on n'aura pas besoin des découvertes faites par la FM et leur cohorte de chercheurs. Nous en aurons tous besoin un jour ou l'autre.
Ce marché de Noël, c'est également toute une structure que vous amenez sur le village de l'Escale.
Tout à fait. Il y a toute une équipe de bénévoles qui nous aident, qui sont là au quotidien, toute l'année, pour toutes les manifestations. Il y a aussi la participation de la mairie, naturellement. La municipalité est partie prenante dans cette affaire. Je rappelle que l'OMF ne vit par ses activités aussi par les subsides de la mairie. Et nous sommes subventionnés, et ça on ne l'oublie jamais. Et toutes des bonnes volontés qui sont là autour du village, et des gens qui viennent nous aider. Donc la structure en elle-même, c'est comme la fête d'ailleurs, c'est une structure de solidarité et de convivialité. C'est la fête du village, en quelque sorte. La fête de Noël, pour nous, comme beaucoup de gens en Provence, est très importante. C'est la fête des enfants, c'est la fête des familles. Et puis, c'est un moment de rencontre. Voilà. Hein. Donc, nous allons essayer de faire ce qui avait été fait avec grand succès en 2019, c'est-à-dire de faire coïncider l'amusement et la solidarité, la bonne action. Et je sais, Chris, que vous ne serez pas très loin. On vous en remercie, d'ailleurs. Je le dis publiquement et sur cette antenne. Chaque année, vous répondez présent et cela nous va droit au cœur. Je le dis à l'antenne et j'espère que ça ne sera pas coupé. Hein, ça. Voilà.
Philippe, pour revenir justement sur cet événement, je vous ai vu très touché par les chants de Noël interprétés par les enfants devant le sapin de Noël, l'école de l'Escale.
C'est la clôture de la journée. C'est ce que nous faisons, on le fait pour l'AFM, mais on le fait essentiellement pour les enfants, qu'ils soient de l'Escale ou d'ailleurs. Les écoles ont une participation active à cette fête et c'est vrai que ça me touche beaucoup parce que d'abord, les enfants, c'est l'avenir. On transmet quelque chose et c'est notre prolongation. Ensuite, ces enfants, on voit avec quel amour, avec quelle ardeur ils participent, ils produisent ou des dessins ou ils font des décorations. Ils font ça avec une telle envie, un tel amour. Nous, bénévoles de l'OMF, nous sommes remplis de joie quand on voit ces petites têtes blondes ou brunes qui viennent et qui chantent à grand cœur les chants de Noël. Ne pas oublier également la participation de nos commerçants escalés qui chaque année font œuvre à la fois de beaucoup d'entrain pour nous aider dans l'organisation et participent financièrement au Téléthon. Hein. Et aussi, ça il ne faut jamais les oublier, les sapeurs-pompiers de Château-Arnoux qui viennent avec leur association et qui nous aident et qui reversent intégralement, naturellement, le fruit, ils vendent des chichis, ils ont tout un stand. Ils les font, hein, ils les font, ils les revendent. Et les bénéfices, naturellement, le fruit de leur travail, retournent à l'AFM. Surtout, il faut bien mentionner à la fois les commerçants et les sapeurs-pompiers de Château-Arnoux que nous remercions avec beaucoup de reconnaissance. Eh bien, écoutez, je donne rendez-vous à tous nos auditeurs de Fréquence Mistral que je remercie encore de venir nous visiter et supporter nos animations. Donc, rendez-vous le 27 novembre de 9h à 17h. Alors, je vous dis pas où, hein. L'Escale sera occupée dans son intégralité. Vous pouvez pas vous tromper. Venez à l'Escale et vous verrez le marché de Noël et les animations avec le Papa Noël. Merci de venir. Venez nombreux.
Jouer ou emprunter des jeux à la ludothèque dinoise.
Inauguré récemment, le local de la ludothèque de 30 mètres carrés mis à disposition gratuitement par la ville de Digne-les-Bains se situe sur le côté du centre culturel René Char avec une entrée indépendante donnant sur le petit parking. Ouvert les mercredis et vendredis après-midi, de 16h30 à 18h30, il suffit de prendre une adhésion à l'année dont le prix est libre. Contact 06 99 96 22 27 06 99 96 22 27 Morgane, animateur et coordinateur de LudiRunner, répond aux questions d'Odile Frison.
Morgane, la ludothèque associative LudiRunner a été inaugurée récemment à Digne-les-Bains.
Oui, on a inauguré récemment la ludothèque associative avec Madame le maire et les habitants qui propose un nouveau service de prêt de jeu. Donc les mercredis et les vendredis, de 16h30 à 18h30, on prête des jeux de société pour les 3 ans, jusqu'à, donc on commence à 3 ans, et après c'est sans limite d'âge. On a une gamme très variée. sachant que les horaires peuvent évoluer en fonction de l'énergie des bénévoles, et ça on met au courant sur Facebook ou sur le site de Ludirunner, ludirunner.gindofree.fr. Donc il y a un onglet ludothèque avec le catalogue et les horaires d'ouverture.
Donc avec ces horaires d'ouverture, il n'y a pas la peine de prendre rendez-vous, de réserver, on y va et...
Du tout, oui. On en a fini avec le drive en fait, c'est un lieu de vie, hein. Donc c'est ouvert au public.
Est-ce qu'on peut revenir sur Ludirunner et ses financements?
Bien sûr. Donc nous, ça fait depuis 2016 qu'on est vraiment actifs sur Ligne-les-Bains. Donc on a commencé avec des soirées jeux. Ensuite, on a monté un club jeune tous les mercredis après-midi. Les gens connaissent bien maintenant le Festival du jeu qui dure depuis 2016 aussi. Donc il y a une édition par an à la fin du mois de septembre. Le Festival du jeu. Et là maintenant, récemment, on a la Ludothèque qui a été ouverte grâce à un fonds leader, donc c'est un fonds européen, une subvention européenne, sur un coût de 22 000 euros. Et on a aussi, on soutient bien sûr la mairie qui met à disposition les locaux gratuitement, donc 30 mètres carrés. Donc merci encore à la mairie. Et sur le temps salarié, on a un fort appui de la CAF qui nous suit depuis le début en fait, hein. Sans la CAF, on n'en serait pas du tout là où on en est aujourd'hui.
Beaucoup d'animations chaque année, vous êtes présents. Combien de rendez-vous annuels?
Eh bien, il y a 12 soirées-jeux quand on n'est pas en pandémie. Il y a un club tous les mercredis, donc ça fait quand même pas mal de sessions. Il y a le service de prêt de jeu qu'on faisait avant à la médiathèque. Hein. On avait un mini-service de prêt de jeu à la médiathèque en collaboration avec eux. Donc là, on a étendu le service encore avec les locaux. On a des animations ponctuelles avec... en fait, on a beaucoup de partenaires socioculturels. Donc, on travaille avec le CCAS, on travaille avec le CADA, on travaille avec le CLIC, on travaille avec les EHPAD, on travaille avec les comités des fêtes des villages. On est très investi dans l'animation locale sur Digne. On est là sur le marché de Noël, on est là sur Halloween. On est quand même assez régulier, on commence à être bien identifié à Ligne-les-Bains.
Alors vous êtes plusieurs salariés à Digne?
Non, il n'y a que moi. Moi, je suis salarié à 35 heures et tout le reste est assumé par une équipe de 15 bénévoles qui sont réguliers à l'année et 60 à 80 bénévoles qui se mobilisent sur l'édition du Festival du jeu. Mais sinon, toute l'année, ouais, c'est 10 à 15 bénévoles qui donnent beaucoup, qui font en sorte d'animer la ludothèque et de faire découvrir des jeux.
Quel est le profil des bénévoles? Ce sont des passionnés de jeux?
Eh bien, pas tous. Non, c'est aussi des médiateurs culturels, des professeurs, des travailleurs sociaux. Alors nous, il faut bien comprendre que le jeu, c'est un support en fait. Hein. Le leitmotiv de l'asso, c'est de mettre en contact des gens, donc c'est de générer du lien social par le jeu. Et de faire jouer des générations aussi. De faire se rencontrer des gens de 50 ans avec des gens de 18 ans. De faire jouer les parents entre eux, de faire jouer les parents avec les enfants. De faire jouer les enfants entre eux. De mixer des familles, de faire jouer des gens qui sont tout seuls. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent tout seuls à nos rendez-vous. Nous, on les met à l'aise, on est là pour ça. Donc, on assoit les gens et on les fait jouer.
Vous parliez tout à l'heure des EHPAD également. C'est vous qui allez dans les EHPAD ou c'est simplement les jeux qui sont empruntés?
Sur les EHPAD, c'est nous qui y allons, ouais. Ils nous appellent, ils créent un événement et nous, on vient avec des jeux qui sont adaptés. Sachant qu'on peut très bien accueillir maintenant, hein, avec nos 30 mètres carrés. Donc, il y a des groupes qui peuvent venir sans problème. Parce que la ludothèque, en fait, ça se veut un lieu ouvert. Donc il y a plusieurs structures qui sont déjà intervenues sans rapport avec les EHPAD. Par exemple, on a la prévention 04, la DSEA, qui font une veille au niveau des enfants et des problèmes familiaux qu'ils peuvent rencontrer. Et donc eux, ils sont venus à la ludothèque avec des agents mandatés et ils sont venus se former à des jeux parce qu'ils ont besoin en fait d'interface pour pouvoir parler aux jeunes, parler aux familles et intervenir. Et ils étaient très intéressés par les nouveaux jeux qui se font aujourd'hui et ils ont délégué une équipe et on a fait une sorte d'initiation pendant toute une journée. C'était un moment sympa. Donc la ludothèque peut accueillir, il n'y a aucun problème. Mais sur les EHPAD, oui, on va aller voir, ils nous demandent de venir et on vient volontiers.
Et donc pour Noël, évidemment, vous préparez des animations, ce sera au milieu des chalets de Noël ou comment ça va se passer?
C'est possible, oui, c'est possible. Ouais. D'habitude, on y va. Donc là, on a deux dates déjà prévues, avec des jeux en bois pour le coup. Hein. Parce que la ludothèque, elle est centrée sur le jeu de société, mais les événements extérieurs, c'est souvent avec des jeux en bois. On a les deux, en fait. Donc, on couvre pas mal la ville toute l'année, en fait.
Et au niveau des jeux, vous allez à la recherche de nouveaux jeux ou comment vous faites?
Ben, on a toute une équipe de passionnés, déjà, qui sont avant tout joueurs et joueuses. Et on écoute ce que nous rapportent les adhérents et les sympathisants et on commande des jeux à l'envi, en fait, hein, en fonction des besoins. Sur les jeux en bois... Là, on s'est constitué un fonds en 2016 qu'on continue à agrémenter en fonction des besoins du public. Parce qu'on a vu qu'il manquait des jeux pour les plus petits, par exemple. Parce que nos jeux, ils sont quand même plus axés, comment ça, 7 ans plus tôt. Parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est pas une bibliothèque petite enfance. C'est souvent étiqueté petite enfance, les bibliothèques. Alors que nous, on est plutôt ado-adulte, même si on a des jeux pour les 3 ans, bien sûr. On a toute une gamme pour les jeux de 3 ans. Mais en tout cas, on commence pas sous les 3 ans. On n'est pas axé petite enfance.
Et alors, par rapport à ces prêts de jeux, ce qui dit prêt dit que c'est gratuit?
C'est sur adhésion. Adhésion à prix libre. Prix libre. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Donc, nous, on veut que ça reste accessible à tous. C'est juste que vous adhérez au projet, on prend le temps de vous expliquer tout ça. Et voilà, vous pouvez mettre 1 euro, c'est valable de janvier à décembre. Et vous pouvez emprunter 2 jeux pendant 3 semaines par adhérent.
Donc là, on vient chercher un jeu où des personnes peuvent jouer sur place.
Oui, sur les heures d'ouverture, vous pouvez jouer sur place, vous pouvez essayer les jeux. Nous, on est à dispo pour vous expliquer si on les connaît. Parce que bon, on ne connaît pas tous les jeux forcément. On vous aide bien sûr à choisir vos jeux, on prend le temps. De toute façon, vous pouvez toujours nous appeler si vous avez un souci avec les jeux.
Alors, vous rappelez le numéro de téléphone?
Alors, 06 99 96 22 27. 06 99 96 22 27.
Il y a un Facebook, un site.
Oui, il y a un Facebook, il y a un site ludirunner.jimdofree.fr. Donc là, en plus, on mettra dans l'onglet ludothèque, on mettra les rendez-vous parce qu'on va faire des sessions jeux libres à la ludothèque. Vous serez les bienvenus ou là on s'occupera vraiment de vous. On mettra des jeux à disposition déjà déployés pour vous faire tester les nouveautés et vous faire jouer, quoi.
C'est la fin de ce magazine. Merci François. À la semaine prochaine pour un nouveau Force 7.
Tout à fait. Merci Olivier pour la régie. À la semaine prochaine.